Sunwo Assurance, présente dans plus de 14 pays d'Afrique, assure la pleine forme de tous nos champions et championnes d'Afrique. Suivez Priorité Santé. Sunwo Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous allons parler du diabète car une journée mondiale chaque année, ça ne suffit pas pour répondre à toutes les questions sur cette maladie chronique qui concerne près de 425 millions de personnes sur la planète. Un déséquilibre, un excès permanent de sucre dans le sang qui concerne une proportion de plus en plus élevée de la population mondiale. Et dans les 15 ans à venir, c'est en Afrique que l'augmentation du nombre de cas sera la plus forte. Et c'est aussi en Afrique que l'on trouve la proportion la plus importante de cas de diabète non diagnostiqué, avec à la clé des risques de complications, conséquences pour la vue, pour la sensibilité neurologique et menaces accrues d'amputation. Une maladie qui nécessite une prise en charge global et la lutte contre cette pathologie nécessite une mobilisation tout aussi générale des différents acteurs et pas simplement du corps médical et des fabricants de médicaments. Implication des pouvoirs publics, des industriels de l'agroalimentaire, car la prévention du diabète commence dans l'assiette ou dans la canette de soda. Responsabilisation personnelle aussi face aux dangers de la sédentarité. Lutter contre le diabète, c'est retrouver une alimentation de qualité, faire de l'exercice, surveiller son état général. C'est donc tout simplement mieux prendre soin de soi. Le diabète, de la prévention à la prise en charge des complications en passant par les traitements et l'éducation thérapeutique, c'est très important. Pour en parler avec nous, docteur Dominique Huette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de diabétologie et endocrinologie du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, également enseignant à l'Université Paris-Descartes. Et vous appartenez, docteur Huette, au conseil d'administration de l'association le CAICEDRA, c'est ça, un ONG qui travaille au Sénégal oriental. Vivre avec le diabète sans renoncer à ses rêves et à ses projets. Nous allons donner la parole tout à l'heure à Arthur de Brovert, patient atteint de diabète de type 1, engagé dans un périple à vélo à travers l'Afrique de l'Est pour sensibiliser le public à sa maladie. On va retrouver en ligne du Gabon le docteur Eric Baillé, chef de service d'endocrinologie, directeur général du centre hospitalier de Libreville. Et puis parmi les complications, la rétinopathie diabétique. On va parler tout à l'heure des recherches dans ce secteur avec le professeur Amine Tadayoni, chef des services d'ophtalmologie des hôpitaux universitaires La Riboisière Saint-Louis Fernand Vidal et du service rétine de l'hôpital Cochin à Paris. Et puis en fin d'émission, on va parler de l'appel lancé par l'Académie de médecine pour un plan de mobilisation nationale pour la psychiatrie. Nous serons en ligne avec le professeur Jean-Pierre Ollier, ancien chef de service honoraire de psychiatrie à l'hôpital Sainte-Anne à Paris.
Priorité santé sur RFI.
Faire face au diabète, docteur Dominique Huette, c'est aussi éviter de rejoindre le nombre de ces patients toujours plus nombreux, toujours trop nombreux, concernés par cette maladie du métabolisme. Alors pour commencer, la prévention, d'abord en matière d'alimentation, qu'est-ce qu'on peut faire chaque jour quand on passe à table ou même quand on n'est pas à table et qu'on est tenté par le grignotage, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les risques de devenir diabétique? Est-ce que ça se travaille au quotidien?
Alors bien évidemment que le chapitre le plus important pour essayer d'éviter la poursuite de cette augmentation considérable, puisqu'on parle de 160% d'augmentation en Afrique noire dans les 25 ans qui viennent, c'est d'abord l'éducation des règles hygiéno-diététiques. Alors l'hygiène, c'est d'abord l'exercice physique et puis l'alimentation. C'est jamais d'être restrictif. C'est aussi un faux message de faire penser que le sucre est responsable du diabète. Non, c'est une maladie héréditaire avec une mauvaise tolérance des excès de sucre liés à un manque d'insuline. Mais pour lutter contre ça, c'est essentiellement éviter de prendre du poids. Donc, ce qui va être très important, c'est d'avoir une alimentation équilibrée, peu riche en graisse, pas dire pauvre, mais peu riche en graisse, parce que ce sont les graisses qui font grossir. Et l'épidémie, elle est liée en particulier à ça. Et bien évidemment, on rajoute pas l'excès de sucre raffiné avec les sodas. Mais d'abord, c'est une alimentation tout simplement équilibrée que la population générale devrait prendre.
Alors on parle d'une épidémie de diabète, pourtant c'est pas une maladie infectieuse, c'est pas une maladie contagieuse, même si vous avez abordé cette dimension de l'hérédité. Avec cette hausse spectaculaire du nombre de cas, en particulier vous l'avez dit en Afrique, comment l'expliquer, docteur Dominique Huet? C'est dû à quoi? Au changement de vie, au changement d'habitude?
Alors bien évidemment que les conditions environnementales sont prépondérantes. Alors l'environnement c'est quoi? C'est passer de la ruralité à l'urbanité, et ça veut dire peu d'exercice physique, ça veut dire également l'accès aux nourritures grasses et très sucrées. Et là, nous avons déjà un des grands thèmes pour cette augmentation. Et le deuxième thème, c'est le vieillissement de la population, puisque maintenant, on arrive à vivre plus vieux, et c'est tant mieux pour tout le monde, mais on sait que plus on avance en âge, plus on a un risque d'avoir le diabète. Donc vous voyez qu'il y a une cause, le vieillissement, on n'y peut rien, et c'est tant mieux. Et deuxièmement, on a une cause très importante sur laquelle il faut lutter, c'est-à-dire l'environnement.
Mais il y a une circonstance aggravante, c'est bien sûr les limites dans l'accès aux soins, et dans certains cas, au traitement, même au dépistage. Docteur Dominique Huet, on peut dire que les patients diabétiques de la planète ne sont pas tous égaux.
Bien évidemment non, parce que déjà le dépistage, nous avons en Afrique noire par exemple 65% des diabètes qui ne sont pas diagnostiqués. Alors cela, ça a comme conséquence que cette maladie qui est souvent silencieuse va évoluer pendant 10 ans, 15 ans et à ce moment-là, les complications vont arriver. Alors que si on avait pu les traiter à temps par un dépistage précoce qui n'est sûrement pas onéreux, on aurait pu éviter ces complications.
Alors vivre avec le diabète, entreprendre, hein, se lancer des défis, on va tout de suite partir pour le Kenya. Pour vous retrouver, Arthur De Brouwer, bonjour.
Bonjour Caroline.
Nous avons enregistré cet entretien. Vous êtes patient atteint de diabète de type 1, patient, mais aussi cycliste, curieux et un petit peu beaucoup aventurier, hein, puisque vous êtes lancé dans un périple, une traversée d'une partie de l'Afrique à bicyclette. Arthur De Brouwer, où en êtes-vous aujourd'hui dans votre itinéraire?
Alors, je suis arrivé il y a une dizaine de jours à Nairobi, au Kenya. Je ne suis pas encore tout à fait à mi-chemin de mon parcours, mais je m'en approche.
Alors, quel pays avez-vous déjà traversé depuis le début de l'aventure?
Alors, l'aventure, je l'ai commencé à Bruxelles, en Belgique. J'ai traversé la France, puis j'ai traversé la Méditerranée sur un navire cargo qui m'a déposé à Alexandrie, en Égypte. J'ai donc traversé l'Égypte, puis le Soudan. Et ensuite l'Éthiopie, et je suis entré au Kenya le 6 juin 2019.
Alors s'il y a cette dimension d'aventure, bien sûr, qui nous intéresse, on l'a dit, vous êtes patient atteint de diabète de type 1, et si on vous donne la parole aujourd'hui dans Priorité Santé, c'est parce que vous-même, vous donnez la parole à des acteurs de cette prise en charge du diabète. Expliquez-nous comment ça se passe.
Mon projet, en fait, vient d'un rêve d'enfant. J'ai grandi en Afrique et j'ai toujours rêvé de traverser le continent. Et donc j'ai décidé d'organiser ce voyage, tout en me rendant bien compte qu'il y avait pas mal de contraintes auxquelles j'allais être confronté en tant que voyageur. Je me suis donc posé la question de savoir quelle était la situation pour les patients qui ne sont pas voyageurs, eux, et qui vivent dans les différents pays que je comptais traverser, mais également les défis auxquels sont confrontées les équipes médicales et les associations qui visent à traiter ou à apporter une aide médicale aux patients diabétiques.
Pour décrire aux auditeurs, Arthur De Brouwer, expliquez-nous avec quels moyens est-ce que vous vous déplacez?
Alors, je me déplace à vélo. J'emporte aussi avec moi du matériel pour pouvoir faire des interviews. La seule différence que j'ai par rapport à d'autres voyageurs, c'est la contrainte liée à la maladie qui fait que je dois apporter du matériel médical et de l'insuline qui, elle, doit être conservée normalement à température contrôlée.
Alors justement, vous êtes insulodépendant. Comment ça se passe pour votre prise en charge? Est-ce que vous avez toujours sur vous l'insuline ou finalement vous la trouvez au fur et à mesure de vos étapes?
J'ai toujours de l'insuline avec moi et j'ai la chance d'avoir l'aide du ministère des Affaires étrangères de Belgique qui me permet d'envoyer du matériel médical par la valise diplomatique, ce qui me permet d'être certain d'avoir dans chaque capitale dans laquelle il y a une ambassade de Belgique un approvisionnement en matériel médical.
Déjà combien de kilomètres au compteur, Arthur De Brouwer? Combien de kilomètres? Est-ce que vous avez subi des malaises, bien sûr, en raison de votre dépendance et de votre maladie?
J'ai parcouru entre 6000 et 7000 kilomètres à peu près depuis Bruxelles. Alors, est-ce que j'ai subi des malaises? Oui, des hypoglycémies légères, parfois des hypoglycémies pendant la nuit après une journée de vélo. Mais j'ai tout de même eu quelques contraintes. Ce qui se passait, c'est que mon insuline était moins effective du fait des températures, en fait. J'ai une pompe à insuline. La pompe à insuline est dans une pochette rafraîchissante. Le souci, c'est que la tubulure qui connecte la pompe à mon cathéter, elle n'est pas rafraîchie. Et donc, le temps que l'insuline parvienne à mon corps, en fait, elle se dégrade déjà dans la tubulure.
Arthur de Brouwer, est-ce que vous avez perçu, hein, au fil des étapes, on l'a compris, vous arrêtez, vous rencontrez des personnes qui travaillent dans des structures de soins, vous rencontrez des patients, est-ce que vous avez perçu des différences importantes d'un pays à l'autre?
Oui, il y a des différences importantes, ne serait-ce qu'au niveau de la culture alimentaire. Donc l'Égypte et le Soudan sont des pays qui ont une alimentation qui est très sucrée. Il y a relativement peu d'aliments frais. En Éthiopie, c'est une alimentation qui est beaucoup moins sucrée, moins salée aussi.
Et comment réagissent les gens que vous rencontrez sur le chemin, et en particulier les soignants que vous allez interroger, que vous allez interviewer?
Alors, de manière générale, très positive. Je reçois de l'aide de beaucoup de personnes, des personnes patientes ou non patientes d'ailleurs. Les médecins m'encouragent dans ma démarche.
Alors en tout cas, Arthur de Brouwer, vous êtes lancé un sacré défi pour montrer qu'on peut avoir des projets hors du commun malgré la maladie. Votre prochaine étape, c'est quoi?
Alors ma prochaine étape, après le Kenya, ce sera l'Ouganda. Et ensuite, je continuerai ma route vers le Rwanda, la Tanzanie, le Malawi. Et je continuerai ainsi de suite jusqu'en Afrique du Sud, au Cap.
Merci beaucoup, hein, merci beaucoup. Bonne continuation et bonne route, Arthur de Brouwer.
Merci.
Docteur Dominique Huette, à l'écoute de cette aventure, hein, d'un patient qui est aussi curieux et puis qui s'adapte à une capacité d'adaptation aux conditions parfois extrêmes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Tout d'abord, je crois qu'il faut le féliciter parce que c'est vraiment quelque chose de formidable de faire ça. Et puis deuxièmement, c'est un signe d'espoir pour tous les diabétiques de type 1, pour leur montrer qu'on est capable de faire tout, ou presque tout. Je voudrais rappeler qu'il y a un certain nombre de sportifs de très haut niveau qui vont aux Jeux Olympiques et qui sont porteurs d'un diabète de type 1. Donc déjà, c'est un signe d'espoir pour tous ces diabétiques de type 1 jeunes, pour lesquels la vie continue, même s'il y a des contraintes. Vous avez vu des contraintes même matérielles vis-à-vis de tuyaux par lesquels passe l'insuline et qui peuvent être non réfrigérés. À ce moment-là, l'insuline n'est pas active. Mais on voit que avec beaucoup de bonne volonté, on peut franchir des caps très importants.
Vous restez avec nous, on va tout de suite donner la parole aux auditeurs et aux auditrices.
Priorité santé sur RFI.
Premier auditeur, c'est Sadi qui est en République démocratique du Congo à Kinshasa. Bonjour Sadi.
Oui, bonjour Caroline, bonjour docteur.
Le docteur Huette est à votre écoute, allez-y.
Ok, j'ai peut-être des préoccupations ou trois. La première, je suis diabétique, j'ai 46 ans, je suis diabétique depuis 2000, donc ça fait 19 ans aujourd'hui, et sous insuline depuis le début jusqu'à ces jours. Mais ma première préoccupation, c'est par rapport à l'insuline. Je prends l'insuline, mais il arrive des périodes où j'ai des grandes oscillations. Il y a des grandes montées et puis des baisses d'hypoglycémie. Pendant que je respecte la dose, il y a des fois je me pose. Est-ce que c'est le corps qui n'est pas sensible à un certain moment ou c'est la qualité de mon insuline? Et il y a des fois, vous prenez la même dose, vous respectez les régimes et les exercices, mais vous examinez, vous avez des taux très élevés. Mais pendant que vous prenez la même dose. Et à la même dose, à un certain moment, vous faites des hypoglycémies. Bon, avec l'expérience, on contrôle ces hypoglycémies comme on connaît peut-être déjà des signes. Ma deuxième préoccupation, c'est peut-être une expérience particulière que je vais demander à docteur. Vous, si vous suivez les diabétiques, quel est votre malade sous insuline avec une espérance de vie le plus longtemps possible. Donc peut-être par rapport à tous vos malades, quel est le malade que vous avez qui a déjà une expérience, de vie, qui a déjà fait peut-être avec son insuline 20 ans, 30 ans, peut-être vous comprenez mon inquiétude. Et peut-être je peux terminer avec la troisième inquiétude, la troisième préoccupation. Bon, la complication, comme on se documente trop aussi, la complication qui me fait toujours mal ou que je crains à tout moment, c'est faire une insuffisance rénale demain après demain. Alors, respecter l'insuline, respecter la dose, respecter les régimes. Quels sont les moyens encore je peux ajouter en plus de cela pour faire que cette insuffisance rénale soit le plus longue, ne vienne pas ou vienne un peu plus tard. Comprenez-nous, en Afrique, si on fait une insuffisance rénale, le problème de transplantation est presque impossible.
Donc, on comprend bien, ça dit en tout cas, à votre écoute, ce qu'on voit, c'est que vous êtes inquiet sur beaucoup de choses. Hein, vous êtes inquiet sur beaucoup de choses. Première question, je vais les reprendre dans l'ordre. C'est sur ce, on va dire un peu, ces hauts, ces baisses de la glycémie en dépit d'une prise régulière de votre traitement. Qu'est-ce que vous pouvez répondre, docteur Huette, à Sadi?
Alors, je voudrais dire déjà à Sadi qu'il me paraît très sérieux, qui prend en charge son diabète, et donc c'est pour cette raison qu'il est aussi très préoccupé. Mmh. Alors, il a un diabète de type 1, qui représente 10% des diabètes, mais qui est sûrement un diabète beaucoup plus difficile à contrôler que le diabète de type 2. Ou dans le diabète de type 2, souvent il suffit d'appliquer des règles hygiéno-diététiques pour que la normalisation glycémique apparaisse. Dans le diabète de type 1, la maladie, c'est une carence total en insuline. Et votre métier à vous, nouveau, monsieur Sadi, de diabétologue, c'est d'apporter l'insuline au bon moment. Et ça, c'est très compliqué parce que, comme vous le voyez, il y a des grandes variations qui sont dues non pas uniquement au régime, mais à l'activité physique, au stress. Si vous passez une très mauvaise nuit, ben vous pouvez vous réveiller le lendemain matin avec une glycémie plus élevée. Donc vous voyez que l'équilibre est très difficile à obtenir, et c'est pour ça que lorsqu'on surveille à l'aide de l'hémoglobine glycosylée, qui est le marqueur que l'on doit faire tous les 3-4 mois, qui nous donne la moyenne, lorsque vous vous situez entre 7 et 8% dans un diabète de type 1, vous faites déjà un excellent travail. Et si vous faites cela, eh bien, les complications n'arriveront pas. Donc l'insuffisance rénale, votre peur, que je comprends, parce que on parle souvent de dialyse, mais on n'arrive pas à la dialyse comme ça. Il faut des 20 ans, 30 ans de très mauvais équilibre du diabète pour cela. Et puis enfin, sur votre question sur l'espérance de vie, oui. je veux vous rassurer, parce que les progrès de la prise en charge et les progrès des patients eux-mêmes dans leur prise en charge font que, par exemple, moi dans mon service, on a mis en route une fiche de suivi des patients qui ont plus de 50 ans de diabète à l'insuline. Et nous en avons plus de 300 uniquement dans le service, plus de 50 ans. Alors moi, je suis plein d'optimisme, d'abord pour la maladie, et puis pour vous, en disant que si vous contrôlez bien, eh bien, vous avez une espérance de vie qui va rester bonne.
Vous restez très très concerné par ce qui vous arrive, Sadi. Hein. C'est vraiment ce qu'on a entendu tout à l'heure dans l'exposé de vos questions. On vous souhaite une très bonne journée à Kinshasa. On va partir pour la région parisienne, retrouver une auditrice, c'est Cathy qui est en ligne. Bonjour Cathy.
Bonjour Caroline.
On est à votre écoute, le docteur Huette vous écoute, allez-y.
Je suis diabétique de type 2, depuis 2013, j'ai 58 ans, et je voudrais savoir quelque chose. Je faisais 115 kilos, j'étais en train de faire un régime avec des sports, tout et tout, j'étais en train de maigrir. Et à 95 kilos, ils m'ont découvert un diabète de type 2. Je voudrais savoir, est-ce que c'est forcément le sucre qui donne le diabète? Parce que j'apprends de gauche à droite souvent que c'est le stress aussi et tout, donne le diabète. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, je voudrais savoir, en général, les diabétologues disent de temps en temps, les samedis et dimanches, on peut se lâcher un peu, prendre une part de gâteau ou du jus, et pendant qu'on nous dit de ne pas être diabétique, de ne pas prendre du sucre. Pourquoi on doit prendre cela? Et la troisième question que j'aimerais savoir aussi, est-ce que étant diabétique de type 2, et on est, ça nous dit que plus tard, on aura la tension?
De la tension. Donc, un lien possible entre diabète et tension. Ces trois questions, on va commencer sur la première question. Est-ce que le sucre est le facteur unique de diabète, docteur Dominique Huette? Vous y avez plus ou moins répondu déjà tout à l'heure.
Alors, je voudrais déjà vous déculpabiliser un petit peu vis-à-vis de ça, parce que on voit que vous avez fait des efforts et vous avez l'impression que vos efforts ont eu comme... non pas une récompense, mais plutôt l'apparition d'un diabète, donc vous êtes un petit peu surprise. Alors, le diabète survient par une note héréditaire bien souvent, et une petite anomalie du pancréas. Et ça veut dire que le sucre en lui-même ne va pas être l'élément majeur. Nous avons des gens qui vont manger une tonne de sucre dans leur vie et qui n'auront jamais de diabète s'ils n'ont pas la petite anomalie génétique dessous. Par contre, il est clair que quand on a cette toute petite anomalie héréditaire de fabrication d'insuline par le pancréas, lorsque vous avez un excès de poids, et vous aviez un gros excès de poids puisque vous avez parlé de 115 kilos, eh ben votre pancréas se fatigue à essayer de maintenir un niveau de sucre normal. Et c'est pour cette raison que votre diabète est apparu malgré... j'allais dire malgré les efforts que vous avez faits. Alors ces efforts sont pas vains, puisqu'ils vont faire partie du traitement, mais la note héréditaire était derrière tout ça. Alors quant au sucre, ce qui est important, c'est d'abord d'avoir un régime équilibré, et effectivement tous nos malades ont le droit à une pâtisserie par semaine si ça les intéresse, il faut surtout pas culpabiliser vis-à-vis de ça.
C'est pas être trop sous contrainte non plus.
Non.
Et la question sur le lien avec l'hypertension?
Alors il y a un croisement entre les deux qui fait que 80 à 90% des diabétiques de type 2 sont hypertendus.
Lien aussi avec le surpoids.
Oui, tout à fait.
Voilà Cathy pour cette réponse. On vous souhaite une très bonne journée. On part pour le Burundi, pour Bujumbura, où l'on retrouve Andy. Bonjour Andy.
Bonjour Caroline.
On vous écoute, allez-y.
Voilà, moi j'ai 2 à 3 préoccupations. J'ai un enfant qui a été déclaré diabétique il y a de cela 2 ans. Il aura 4 ans en novembre. Moi et le papa ou les membres de nos familles, aucun diabétique n'est dans la famille. Là, j'aimerais d'abord savoir comment est-ce que le diabète peut se déclencher chez un enfant qui est né des parents qui n'ont pas de diabète. Et la deuxième préoccupation, c'est que au moment où le diabète s'est déclenché, il avait quand même une glycémie assez instable jusqu'à avoir 23 de glycémie. Là, il a été directement mis sous insuline. Mais après un certain temps, quelques injections pour stabiliser et avoir les corps cétoniques négatifs, il piquait des hypoglycémies, plus spécialement la nuit, où on a arrêté carrément l'injection à l'insuline sur presque 1 an et demi. Et dernièrement, il a refait une crise où il a encore piqué quelques crises de glycémie. On a encore mis sous insuline. Alors j'aimerais savoir quel serait le danger d'injecter et d'arrêter vis-à-vis de la santé de l'enfant. Et la troisième chose, c'est du côté alimentation. C'est un enfant, il est encore en pleine croissance, il a besoin de ceci et de cela. C'est vrai qu'on essaye de respecter un peu quand même le régime des diabétiques, manger trop de légumes et éviter les sucres rapides. Mais il y a quand même des aliments dont il aura besoin. Comment est-ce que... c'est vrai qu'on arrive à gérer, mais je me demande quel serait le danger de lui priver de quelques aliments alors qu'il est toujours... Qu'il est encore petit.
Vous voulez le priver de quoi, par exemple, Andy? Parce que, a priori, tout ce qui est bon pour un enfant n'est pas forcément contre-indiqué quand on est diabétique. Vous voulez le priver de quoi, par exemple?
Exactement. Là, il y a par exemple des fruits un tout petit peu sucrés, la petite banane. La petite banane, il prend pas. Bon, bien sûr, l'ananas, il n'est pas encore...
Sur les fruits, d'accord. Sur les fruits, principalement.
riz aussi en Afrique. On mange quand même un peu du riz par rapport. Il y a aussi les haricots secs. En tout cas, il y a une liste. C'est vrai qu'on essaie de respecter avec les portions et tout ce qui va avec. Mais je me demande quel serait vraiment
l'impact sur sa croissance.
Exactement.
Alors voilà ces questions. On va d'abord parler du facteur héréditaire.
Bien sûr. Alors, comme vous l'avez entendu, il y a deux types de diabète et votre enfant est porteur d'un diabète de type 1 qui n'a absolument rien à voir avec le diabète de type 2. Et la note héréditaire dont on parle se trouve essentiellement et uniquement dans le diabète de type 2. Donc, comme toutes les mamans de jeunes diabétiques, vous avez culpabilisé en disant « j'ai transmis quelque chose à mon enfant ». Non. C'est une maladie tout à fait différente qu'on appelle une maladie auto-immune où, à l'occasion d'un traumatisme que l'on n'a pas encore identifié, que ça soit viral, que ça soit alimentaire ou autre, eh bien, votre enfant va faire des anticorps qui vont détruire son pancréas et il ne fabriquera plus d'insuline. Donc c'est une maladie totalement différente et qui n'a rien à voir avec l'hérédité. Alors, le fait d'arrêter l'insuline, c'est parfois possible durant la première année de découverte du diabète ou ce qu'on appelle la lune de miel des diabétiques où ils ont besoin de moins d'insuline, voire de l'arrêter un petit peu. Mais hélas, comme c'est arrivé pour votre enfant, il faut reprendre l'insuline et je ne vous conseille surtout pas maintenant d'arrêter l'insuline. Alors votre enfant a 4 ans, c'est un âge très difficile puisqu'ils sont turbulent, ça bouge beaucoup, il y a de l'activité physique qui va rendre le diabète difficile à équilibrer. Il faut essayer de trouver un juste compromis entre des glycémies pas trop élevées et éviter ces hypoglycémies. Mais c'est horriblement difficile à cet âge-là. Je crois que vous vous accrochez très bien. Enfin, un enfant, comme vous le disiez, il doit avoir une croissance normale et il doit avoir une alimentation normale. Donc s'il mange des fruits un petit peu plus sucrés, eh bien on augmente un petit peu la dose d'insuline correspondante et ça permet de garder un équilibre correct.
Voilà pour ces réponses, Andy. On vous souhaite une très bonne journée à Bujumbura. On va prendre encore un auditeur en Guinée-Conakry, dans la ville de Cancan précisément, c'est Mohamed. Mohamed, on vous écoute, bonjour.
Bonjour Caroline.
On vous écoute, allez-y.
Oui, ma femme, elle a 24 ans, elle souffre du diabète de type 1 depuis 3 ans. Elle est enceinte de 2 mois. Je veux savoir s'il y a des dispositions à prendre.
Elle est suivie, votre femme, pour cette grossesse par rapport à ce problème de santé? On lui en a parlé. Elle en a parlé au gynécologue quand elle a fait peut-être une visite médicale dans le cadre de la prise en charge de sa grossesse?
Oui, bon, elle a fait des visites médicales depuis Conakry là-bas. Et maintenant que moi je suis en service depuis Cancan, donc voilà un peu ce problème. En tout cas, souvent elle se déplace pour aller à Conakry pour des visites.
D'accord. Justement, un suivi spécifique, hein, docteur Dominique Huette, quand on est patient diabétique et lorsqu'il y a une grossesse qui est là, comment ça se passe?
Alors, le risque. Le risque lors d'une grossesse, c'est que si vous êtes mal équilibré, c'est-à-dire trop de sucre, bébé va grossir trop. Et donc, la patiente diabétique va mettre au monde un enfant de plus de 4 kilos, voire 5 kilos, ce qui peut poser des problèmes d'ordre obstétricaux. C'est pour ça qu'on veut absolument avoir un contrôle le plus strict possible et on demande des valeurs de taux de sucre encore plus basses que pour les femmes non enceintes afin d'éviter ces complications obstétricales. Donc, le suivi doit être très régulier. On estime qu'il faut que les femmes aient une glycémie toujours aux environs d'un gramme à jeun, ce qui fait que lorsqu'il s'agit de diabète de type 2, on met en route la diététique, mais bien souvent, on met en plus de l'insuline pendant le dernier trimestre, et puis on arrête cette insuline après l'accouchement. Quant aux femmes diabétiques de type 1, ce qui semble être le cas de votre épouse, eh bien, il faut un contrôle métabolique le plus strict possible, et dans ce cas-là, la grossesse se passe le plus naturellement
du monde. Alors Mohamed, ce qu'il faut, c'est donc que votre épouse aille régulièrement en consultation pour bien suivre justement son état de santé pour la croissance de ce bébé. On vous souhaite une très très bonne journée à Cancan, en Guinée, et vous restez avec nous, docteur Huette. On va tout de suite partir pour le Gabon.
Priorité santé sur RFI.
Pour vous retrouver, docteur Éric Baillet, bonjour.
Bonjour Madame Paré.
Vous êtes chef de service d'endocrinologie, directeur général du centre hospitalier de Libreville. Alors le Gabon, on est parti tout à l'heure à Bujumbura, on est parti à Cancan, on est parti à Kinshasa. Le Gabon, à quel titre est-il concerné, lui aussi, par l'augmentation du nombre de cas de diabète? Est-ce que vous disposez de chiffres?
Oui, nous avons des statistiques générales. De toute façon, faut considérer le Gabon entre les 3-4 pays d'Afrique noire les plus atteints de diabète, avec des statistiques qui estiment la prévalence du diabète au Gabon entre 8 et 10% aujourd'hui, et des projections de autour de 14% d'ici les 30 prochaines années, si rien n'est fait pour enrayer cette épidémie.
Une hausse très importante, on l'a compris. Alors, à quel stade de la maladie les patients viennent-ils en général consulter, docteur Baillet?
Alors, on va dire, sur le plan des statistiques hospitalières, 30% de nos patients sont des nouveaux malades. Toutefois, donc, les 70 restants, ils viennent le plus souvent avec des complications. Et ce qui, donc, fait toute la gravité de la maladie. Notamment les complications du pied diabétique, souvent au stade ultime où il faut amputer, ou alors avec d'autres complications, notamment rénales, avec une insuffisance rénale chronique installée, et donc d'où toute la nécessité de tous les programmes de prévention et d'éducation indispensables à ce niveau.
Est-ce que ces patients sont souvent, docteur Éric Baillet, souvent concernés par le surpoids?
Dans 75% des cas, il s'agit des patients en surpoids ou obèses. Oui, et cette obésité au surpoids se voit de plus en plus donc dans la population jeune, adolescente, voire même infantile. Et oui, donc tous les soucis de problèmes de nutrition sont au cœur des maladies métaboliques et particulièrement du diabète.
Donc vous êtes vous aussi témoin du phénomène de l'émergence de diabète de type 2 chez des enfants?
Naturellement. L'inquiétude, elle est là, c'est que la population est en surpoids. Chez une étude à Libreville révélait donc l'obésité, le surpoids et l'obésité chez les enfants et adolescents autour de 15%, ce qui est tout de même énorme.
Alors, quel type
ça, c'est dans les populations défavorisées.
Et quel type de prise en charge est-ce que vous proposez, vous, au sein de votre service d'endocrinologie?
Alors, naturellement, le souci, c'est que les 3/4 des moyens sont mobilisés pour la médecine curative. Donc, c'est déjà un peu tard. Mais compte tenu de la faiblesse des moyens humains, en spécialiste sur le diabète, sur la diététique et la nutrition, donc nous mobilisons beaucoup plus sur le curatif, mais tout de même, il y a des campagnes de sensibilisation, des campagnes de prévention qui sont réalisées plusieurs fois dans l'année, et dans les établissements, et de plus en plus en entreprise, mais aussi radiodiffusées. Notons que le Gabon, c'est le premier pays en Afrique noire qui a mis en place SMS Diabète pour communiquer avec l'ensemble de la population par SMS, pour les informer sur les dangers du poids, de l'alimentation, de la malbouffe, mais aussi du diabète et ses complications.
Alors une dernière question, et bien sûr elle est essentielle, c'est sur l'accès aux soins, sur la capacité justement de financer le traitement et tout ce qui va avec quand on est diabétique. Qu'est-ce qu'il en est précisément, docteur Éric Baillet, pour votre pays, le Gabon?
Alors, il faut quand même dire que pour ce qui est du Gabon, on est plus ou moins favorisé comparativement à la sous-région. Premièrement, nous avons l'offre de soins avec un grand service d'une capacité de 50 lits au CHU de Libreville, dédié entièrement à la prise en charge du diabète, ce qui est exceptionnel, mais aussi et surtout l'accès aux soins avec l'assurance maladie universelle. Notons qu'au Gabon, les Gabonais bénéficient d'une assurance maladie, qu'ils soient employés ou au chômage, et que pour les diabétiques, ceux-là sont considérés comme affections de longue durée et bénéficient donc d'une prise en charge de 90% pour la consultation, les médicaments, les examens, radio, laboratoire, la chirurgie et la kiné. C'est-à-dire l'ensemble des actes médicaux sont pris en charge à 90% par l'assurance maladie, ce qui est quand même exceptionnel et peut-être est à l'origine de l'augmentation importante du nombre de patients que nous voyons de plus en plus consultés.
Parce que derrière, il y a la capacité d'être soigné, donc ça donne envie aussi d'être pris en charge.
Tout à fait.
Merci beaucoup.
Les patients ayant ce sésame peuvent accéder aux soins.
On le comprend bien. Merci beaucoup, docteur Éric Bayen. Je rappelle que vous êtes chef de service d'endocrinologie, directeur général du centre hospitalier de Libreville.
RFI à Libreville. 104 FM.
On l'a bien entendu, docteur Dominique Huette, hein, l'exemple de Libreville, l'accès aux soins qui dépend de la couverture santé, c'est essentiel dans la prise en charge, en particulier des maladies chroniques. Quand on a une maladie chronique, si on n'a pas cette assurance, c'est très difficile de se soigner sérieusement, même si on en a la volonté.
Bien évidemment. Et vous avez employé le terme maladie chronique, ça veut dire que on ne guérira jamais de cette maladie, donc il faudra des règles d'hygiène de vie toute sa vie et également des traitements au long cours, ce qui pose le problème du coût de ces traitements. Alors, il y a quand même un basculement en ce moment des pouvoirs publics parce qu'ils se rendent compte que ne pas investir dans ce problème-là va poser des problèmes économiques fondamentaux parce qu'aujourd'hui, dans les statistiques, on voit que 2/3 des diabétiques dans le monde ont entre 20 et 65 ans, c'est-à-dire qu'ils sont en âge d'être actifs.
C'est une force de travail qui risque d'être perdue sinon.
Qui va être perdue à cause de complications, comme on a vu, d'amputations, d'insuffisance rénale. Et donc, là, on a un impact sur la volonté des pouvoirs publics pour faire quelque chose sur le dépistage et la sensibilisation.
C'est l'avenir des pays qui se joue aussi. Alors, avenir en matière de recherche, docteur Dominique Huette, est-ce que certaines innovations sont d'ores et déjà accessibles pour améliorer le quotidien des patients? Qu'est-ce qui change quand on est diabétique?
Alors, c'est difficile de vous répondre parce que d'un côté, on voit que dans le diabète de type 1, il y a beaucoup d'innovations. Vous avez vu notre patient tout à l'heure avec une pompe à insuline, des capteurs qui mesurent en permanence. Tout ça devient du domaine du réalisable un petit peu partout dans le monde. Par contre, dans le diabète de type 2, et c'est pour ça que l'épidémie continue, c'est qu'on n'a pas trouvé le moyen de remplacer l'exercice physique et la mauvaise bouffe par un comprimé de quelque chose.
Ça veut dire que c'est là qu'il faut agir.
Voilà.
Alors justement, de la recherche aussi en matière de dépistage, hein, c'est important. C'est ce qu'on va voir tout de suite pour le cas particulier d'une complication au niveau de l'œil que vous aviez évoqué tout à l'heure. Il s'agit de la rétinopathie diabétique. Pour en parler, on retrouve le professeur Raminta Dayoni. Bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes chef des services d'ophtalmologie des hôpitaux universitaires Lariboisière Saint-Louis Fernand Vidal et de l'hôpital Cochin à Paris. Première chose, professeur Tadayoni, expliquez ces symptômes de la rétinopathie diabétique et des données aussi par rapport à la fréquence. Est-ce que ces complications au niveau de l'œil, ça concerne beaucoup de patients diabétiques?
Les complications au niveau de l'œil vont concerner la très grande majorité des patients diabétiques après une longue évolution du diabète. Donc au tout début du diabète, il est rare qu'on retrouve une rétinopathie diabétique, sauf si le diabète a évolué sans que le diagnostic ait été fait. Mais par contre, ils vont être très fréquents après 15-20 ans de diabète. Il y a vraiment trois phases dans la vie de l'œil du diabétique, si je puis dire. La première phase est totalement asymptomatique. Il n'y a aucun symptôme. Puis la baisse d'acuité visuelle peut survenir en rapport avec des complications. Ce qui est important, c'est de commencer le traitement au moment même où il n'y a aucun symptôme, d'où l'idée du dépistage, qui est la première phase de la prise en charge de ces patients. Il faut que régulièrement les patients soient vus pour que s'il apparaît une complication, avant même qu'il n'y ait aucun symptôme, les patients puissent être traités. Donc pour répondre à votre question, la rétinopathie diabétique, dans sa grande majorité, va être asymptomatique, d'où la nécessité d'un dépistage systématique.
Dépistage, donc consultation chez un ophtalmologiste.
Pas forcément. Alors, de plus en plus, des systèmes pragmatiques ont été mis en place, avec, depuis longtemps, par exemple, nous avons mis en place en France, mais bien en retard par rapport à d'autres pays, un système de dépistage par rétinophoto. Donc, ce sont des photos qui sont prises du fond d'œil des patients, sans dilatation. Cela peut être fait dans le cabinet de diabétologue, dans des services de diabétologie, dans des centres de santé, puis télétransmis, lu à distance par des ophtalmologistes, et la réponse va repartir chez le médecin et chez le patient en disant est-ce qu'il y a quelque chose ou il n'y a pas quelque chose. S'il y avait quelque chose, alors il faut voir un ophtalmologiste.
Et donc c'est important que ça puisse se faire auprès de différents spécialistes parce que c'est pas toujours facile, surtout auprès des pays où vivent nos auditeurs en Afrique, d'avoir accès justement à cette spécialité. Dépistage donc par différents spécialistes et votre service en particulier travaille sur un programme de recherche qui associe l'intelligence artificielle. Expliquez-nous, professeur Tadayoni.
Alors effectivement, depuis une quinzaine d'années, nous travaillons sur différents projets d'intelligence artificielle. Un premier qui a déjà abouti, qui est le dépistage par intelligence artificielle. Donc on a déjà un système qui est au point, qui a déjà marqué le marquage CE et va être mis sur le marché. Cette fois-ci, en fait, c'est automatiquement la machine qui va donner la réponse s'il existe, oui ou non, une rétinopathie diabétique. Donc ça, c'est relativement simple, si je puis dire, par rapport à la suite. Et cette partie-là est déjà disponible avec des sensibilités spécificités qui sont au moins aussi bonnes que les lecteurs médecins. Donc ça, c'est au point. Il existe déjà un système américain qui est aussi mis sur le marché. Donc en fait, actuellement, on se retrouve avec deux systèmes concurrents qui sont capables de faire du dépistage à distance et de manière automatique. Par contre, nous travaillons sur un système plus sophistiqué qui peut aider le médecin à une meilleure, ou l'ophtalmologiste, à une meilleure décision thérapeutique. Donc, une fois que le dépistage est fait et qu'on sait qu'il existe une rétinopathie diabétique, le patient diabétique rentre dans une deuxième phase où cette fois-ci, on n'est plus dans le domaine du dépistage. Habituellement, il est suivi par un ophtalmologiste et l'ophtalmologiste prend une décision de traitement ou pas en fonction du risque évalué du patient et du risque d'évolution de sa rétinopathie diabétique. Cette partie-là repose sur une classification qui date du siècle dernier, essentiellement faite aux États-Unis. Depuis lors, le traitement du diabète a considérablement changé, les patients ne sont pas les mêmes, ça n'a pas été remis à jour, donc on a travaillé sur un nouveau système qui utilise des nouvelles méthodes d'imagerie, qui s'aident de l'intelligence artificielle pour aider le médecin, l'ophtalmologiste, à avoir une meilleure évaluation du risque et donc de pouvoir faire un meilleur traitement pour le patient.
Merci beaucoup, professeur Amine Tadayoni. Je rappelle que vous êtes également professeur d'ophtalmologie à l'Université Paris 7, Sorbonne Paris Cité.
RFI.
Et on arrive quasiment à la fin de cette émission. Il y a eu le mois dernier une publication dans la revue scientifique The Lancet, Déclaration de Boston, qui pointe les insuffisances majeures en termes de prise en charge de ce genre de maladies, des maladies chroniques en situation de crise. C'est vrai, on n'y pense pas souvent face à des exils de population, des réfugiés, des situations de guerre. Eh bien, les maladies chroniques, elles sont toujours là. Et dans tout ce qui est proposé par justement la médecine humanitaire, on oublie cette prise en charge. Or, aujourd'hui, on l'a vu, le nombre de patients diabétiques augmente de façon exponentielle. Donc, il y a une forme d'urgence aussi à prendre cela en considération, docteur Huette.
Tout à fait. Un exemple très récent a été les incidents survenus au Mali, où bien évidemment il y a des jeunes enfants diabétiques de type 1 qui se retrouvaient sans insuline et pour lesquels les organisations non gouvernementales ont répondu qu'elles s'occupaient des problèmes de guerre et non pas de maladies chroniques. Et donc, nous étions un petit peu coincés à ce niveau-là.
Donc, il faut que la prise en charge soit vraiment globale.
Oui,
c'est vraiment très important. Merci infiniment à docteur Dominique Huette d'avoir répondu à nos questions. Beaucoup d'auditeurs, hélas, à qui on n'a pas pu donner la parole. Ça veut dire que dès la rentrée, on va réorganiser une nouvelle émission avec toutes vos questions consacrées au diabète. Merci beaucoup, docteur Huette. Je rappelle que vous êtes chef du service de diabétologie du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph. Plan de mobilisation nationale pour la psychiatrie, c'est l'Académie de médecine qui appelle de ses voeux cette prise de conscience, surtout assortie de moyens, plan comme un petit peu ce qui avait été fait en France dans le cadre de la lutte contre le cancer. En ligne avec nous, professeur Jean-Pierre Ollier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien chef de service honoraire de psychiatrie à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Plan de mobilisation nationale pour la psychiatrie, impératif indispensable. Alors, on vous demande pourquoi aujourd'hui, professeur Ollier ?
Aujourd'hui, pour une raison principale, c'est que il n'est plus l'heure d'accompagner les malades, mais de soigner les maladies mentales, qui sont des maladies aujourd'hui parfaitement curables. Elles touchent 20% de la population à travers le monde, et trop souvent, quelle que soit la qualité des services d'accompagnement, trop souvent pèse une sorte de fatum, de renoncement, et donc nous avons voulu marquer le fait qu'il faut changer de position.
Changer de position, ça veut dire augmenter quoi ? Augmenter les moyens principalement, justement, dans la recherche ?
Oui, mieux structurer la recherche, bien sûr. Ce n'est pas une question d'augmentation de moyens. En France, la recherche médicale est soutenue, la recherche en neurosciences est particulièrement bien soutenue. La psychiatrie doit tirer avantage des qualités de cette recherche en France. Elle doit se structurer, c'est-à-dire qu'il faut structurer les qualités qui existent, les réseaux qui sont déjà en place, et il faut surtout mieux organiser l'offre de soins, en particulier l'articulation entre le médecin de première ligne, le médecin généraliste en particulier, et les médecins de spécialité psychiatrique, voire les structures surspécialisées en psychiatrie.
La France a connu une baisse très importante du nombre de lits, en particulier de fermeture de services de psychiatrie dans des hôpitaux généraux. Est-ce que ce sont des choses sur lesquelles il faut revenir ou il faut avancer vers d'autres directions, professeur Ollier ?
Non, il n'y a pas lieu de revenir sur la fermeture des lits. Nous sommes arrivés à un nombre de lits qui est raisonnable. Il ne faut pas continuer à diminuer. Mais encore une fois, il faut structurer l'offre. Et une chose qui est très parlante. Plus de la moitié des personnes qui sont soignées en psychiatrie le sont initialement à l'occasion d'une crise qui nécessite un passage par un service d'urgence médicale. Ceci indique à l'évidence que les actions de dépistage et de prévention en amont de la crise n'ont pas été effectuées, que les diagnostics n'ont pas été portés et les traitements mis en œuvre. Et donc, c'est à ce niveau qu'il faut agir.
Ça veut dire au niveau de la formation des professionnels de santé ?
Ah oui, alors là, la question de la formation de tous les médecins, et la ministre de la Santé a déclaré que tout futur médecin devait dorénavant faire un stage en psychiatrie, qu'il soit appelé à devenir gynécologue ou médecin généraliste. Donc ça, c'est une bonne chose. Il faut que la formation des infirmières aussi soit davantage orientée. Il faut structurer la formation des psychologues, qui aujourd'hui en France est un gros problème, puisqu'il n'y a pas de maquette de formation aux futures formations de psychologues et de psychothérapeutes. Donc absolument, il y a un effort à faire au niveau de la formation, et cela, nous le disons.
Merci beaucoup, professeur Jean-Pierre Ollier. Je rappelle que vous êtes ancien chef de service honoraire de psychiatrie à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est Oussama Kéofili, la scène Didier Bleu. Demain, dans Priorité Santé, nous allons parler de l'image de soi, bien ou mal dans sa peau, comment se sentir mieux. N'hésitez pas à poser vos questions et à nous joindre au 33 84 22 75 75. À demain et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui assure la pleine forme de nos champions et championnes d'Afrique. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Écoutez.